101.5 FM dans l'émission à la découverte des plantes vagabondes proposée par le tiers-lieu Le Plantis à Écuyer au nord d'Angers. Cette émission est animée et écrite par Claudie, ingénieur paysagiste conseil. Chaque vendredi, père, je vous propose de découvrir une nouvelle plante sauvage pour connaître son histoire, son mode de vie et ses usages. Connue depuis l'Antiquité et associée à la sorcellerie au Moyen-Âge, elle possède de puissants pouvoirs sur les hommes et les êtres vivants. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Kélidouane, plante chargée de mystères. Depuis les temps les plus reculés, les hommes sont fascinés par le pouvoir des plantes, auxquelles ils associent souvent prières et rituels. Utilisée en magie noire, la Kélidouane, au nom évocateur de l'aide sorcière, l'aide démon ou encore herbe du diable, possède en effet de puissantes propriétés magiques, voire surnaturelles, selon certaines croyances. Cette allusion maléfique est ancienne. Dans la Genèse, le serpent est condamné à ramper pour avoir séduit Ève. Par dépit, il crache 3 fois son venin, créant la jusquiame, le datura et la kélidouane. À l'inverse, les alchimistes au Moyen-Âge la nomment don du ciel. Ils pensent que la couleur du latex porte la signature de la pierre philosophale qui a le pouvoir de transformer les vils métaux en or. La kélidouane est une plante herbacée de la famille des pavots. Elle pousse dans toute l'Europe, excepté en Irlande ou en Angleterre, où elle ne pousse pas naturellement. Considérée encore trop souvent comme indésirable dans nos jardins et nos espaces publics, les anglo-saxons, eux, la cultivent volontiers dans leurs massifs champêtres, associés à d'autres plantes fleuries, comme les pois de senteur ou les marguerites. Plante de collection même, on apprécie son beau feuillage découpé à la forme caractéristique et ses cultivars à fleurs doubles. Dans la cour du Plantis, à Écuyer, cette herbe vivace forme des touffes de 50 à 60 cm de haut et passe l'hiver, le feuillage toujours verdoyant. Peut-être un signe du changement climatique en œuvre. Elle protège ainsi les rosiers au pied desquels elle s'installe spontanément. Elle apprécie tout particulièrement les sols secs, plutôt riches en azote. Comme nous, n'hésitez pas à l'installer dans votre jardin, quelle que soit sa taille.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec 2 arbres, un pommier et un sapin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur. Ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
C'était Le Petit Jardin de Jacques Dutronc. Merci à lui pour cette indémodable chanson, véritable plébiscite pour les jardins où on laisse pousser les plantes en oubliant le béton. La grande chélidoine, ou Chélidonium majus, prend la forme de touffes reliées entre elles par des tiges souterraines appelées rhizomes, mesurant jusqu'à 1 mètre de long. Les tiges dressées, poilues, contiennent un latex au pigment jaune très reconnaissable et à l'odeur un peu nauséabonde, alertant sur sa toxicité. Les feuilles, d'abord pétiolées et en rosette, deviennent sessiles lorsque les feuilles se développent. Le découpage de leur limbe évoque celui des feuilles de chêne. Au mois de mai, les fleurs jaunes aux pétales délicats apparaissent. La couleur jaune éclatante et lumineuse des pétales est sans doute à l'origine du surnom de « grande éclair ». La floraison se poursuit jusqu'à la fin de l'été. Elle donne naissance à des capsules allongées à la forme de mini-haricots boursouflées par la présence de nombreuses graines noires. Elles donneront ensuite de nouveaux pieds car les graines se répandent et germent facilement. Les fruits sont accrochés à une excroissance riche en sucre et lipides qui attire les fourmis. Ces dernières en raffolent et s'empressent de les porter à l'aide de leurs mandibules au cœur de la fourmilière, contribuant ainsi à la dissémination des graines. Ce partenariat gagnant-gagnant porte le nom de zoochorie ou dispersion des graines par les insectes. Le nom de chélidoine signifie « hirondelle » en grec. L'explication aujourd'hui varie selon les versions. La plus évidente est sans doute la synchronisation de la floraison avec la venue et le départ de ces oiseaux migrateurs si marquants dans le paysage sonore de notre ciel estival. On raconte aussi que les Grecs anciens avaient observé une autre collaboration entre la chélidoine et les hirondelles. Laissons la parole à Gilles, écologue et naturaliste, pour nous l'expliquer.
Bonjour Gilles, tu es écologue et naturaliste et tu interviens notamment pour la LPO. Peux-tu nous en dire plus ?
Ben en fait, oui, j'ai travaillé pour la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux, pendant 25 ans. J'ai arrêté en 2016 pour me mettre à mon compte. Donc effectivement, aujourd'hui, en tant qu'écologue naturaliste, je réalise des expertises principalement pour les collectivités et également dispense des enseignements auprès d'étudiants en master, donc qui demain seront sur le marché du travail et prêts à prendre la suite. Et donc ces différentes missions visent essentiellement à faire préserver les milieux derrière, ça l'objectif. Même si au départ il y a des inventaires biodiversité, inventaires naturalistes sur la faune et la flore, La finalité, c'est de donner les clés ensuite aux différents acteurs du territoire, et notamment les collectivités, pour préserver cette biodiversité.
En échangeant entre nous, tu m'as aussi beaucoup parlé de transmission, de pédagogie auprès notamment des jeunes générations, et notamment pour mieux les aider à comprendre la nature dans son fonctionnement, en termes d'habitat, de milieu. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu les activités que tu conduis pour leur expliquer justement cette dimension un peu transversale de la nature?
Cette approche se fait pour moi le plus tôt possible pour travailler avec des étudiants qui aujourd'hui arrivent en master, donc autour de 22 ans. Et quand je vois les lacunes qu'ils peuvent avoir sur la connaissance des milieux alors qu'ils envisagent de travailler dans ce domaine-là, je pense qu'il y a un loupé quelque part. Et ce travail-là est à conduire dès le plus jeune âge. Malheureusement, ça n'est plus suffisamment enseigné tant dans le primaire que dans le secondaire. Donc voilà, par l'intermédiaire d'un groupe jeune, d'un club jeune nature au sein de la LPO, là, on va commencer là très prochainement. Et l'objectif, c'est vraiment de former les enfants le plus tôt possible à un âge où ils sont encore très réceptifs, très curieux. Ils ne sont pas encore dispersés dans différents domaines. Et il faut commencer, c'est là la base, quoi. Et tout ce qu'on va leur enseigner dans la période autour d'une dizaine d'années, c'est des choses qui seront acquises sur le long terme. Donc leur apprendre tout simplement à reconnaître les oiseaux, à reconnaître la flore, la faune, différents domaines, et voilà, leur inculquer ces bases-là. Et bien sûr, à côté, dans ces gros soucis actuels de changement climatique, de réduction de la biodiversité, c'est aussi leur donner les bases pour préserver cette biodiversité demain, quoi.
Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la Quélidoine. Donc, le nom de la Quélidoine évoque pas grand-chose pour le grand public comme ça. Si on l'appelle la plante à verrues ou l'herbe à verrues, déjà, il y a au moins chez les anciens, ça se réveille un peu. Donc, est-ce que tu as, un témoignage par rapport à ça, cette plante-là, le lien qu'elle peut entretenir avec les autres espèces?
Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est dans ces noms, il y a effectivement herbe à la verrue, mais il y a aussi un autre nom. Si on part de son nom latin, qui est Quélidonium, et on dit bien, alors ça s'écrit che, mais on dit bien que. C'est du grec, et Quélidonium, ça veut dire hirondelle. Et en fait, il y a un autre nom dans la Quélidonium qui s'appelle l'herbe aux hirondelles. Et ce nom-là vient en fait. Alors il y a deux théories. Il y a une première théorie qui dit là, c'est une plante qui va commencer à fleurir à l'arrivée des hirondelles, et qui arrête de fleurir au départ des hirondelles à l'automne. Et il y a une autre option, mais qui n'a pas forcément été retenue par les auteurs anciens, qui est de dire que l'hirondelle utilisait cette fameuse plante pour ouvrir les yeux des petites hirondelles lorsqu'elles étaient encore au nid, lorsque les œufs sont fermés. Elle aurait utilisé la Quélidoine, donc c'est avec ses propriétés, notamment d'herbe à la verrue, pour permettre l'ouverture des yeux des petites hirondelles. Bon, c'est un peu imagé, mais on retiendra l'autre option qui est la floraison au moment de l'arrivée des hirondelles. Et effectivement, la Quélidoine est une plante qui est commune, qu'on appelle rudérale, c'est-à-dire qui va pousser aussi bien en ville, le long des trottoirs, dès qu'elle va trouver un petit peu de terre. Par contre, elle va être liée au calcaire. Donc lorsqu'on va la trouver dans les villages, c'est souvent qu'il y a eu des apports de calcaire au pied des murets, etc. Donc c'est une plante commune, qui est de la famille du pavot et coquelicot. Donc c'est intéressant. Et effectivement, qui a plein de propriétés. En fait, on va retenir surtout son latex un petit peu orange qui permet éventuellement d'avoir une action sur les verrues. Après, il y a d'autres actions de la plante, notamment qui va favoriser la sécrétion de la vésicule biliaire et qui a aussi d'autres vertus qui permettraient de mieux dormir, entre autres.
On en a bien besoin en ce moment de mieux dormir, d'ailleurs. Écoute, en tout cas, moi, je trouve que l'image des oiseaux qui utilisent des plantes aussi je trouve que c'est une image qui est vraiment intéressante et qui clôture bien cette interview. Merci de t'être déplacé au Planty.
Merci.
Et puis à bientôt, Gilles.
Merci. Au revoir.
Vous êtes sur Radio G 101.5 FM avec Claudie dans l'émission Les Plantes Vagabondes, pour parler aujourd'hui de la Quélidoine. Comme expliqué en début d'émission, depuis l'Antiquité, on prête de nombreux pouvoirs à cette plante. Elle est mentionnée en -300 avant Jésus-Christ dans les textes du philosophe botaniste Théophraste. Pline l'Ancien décrit des propriétés réparatrices des troubles oculaires, permettant même de rendre la vue aux aveugles. Dans les écrits de Platéarius au XIIe siècle, la Quélidoine s'utilise pour nettoyer la matrice et provoquer les fleurs retenues. Elle est réputée favoriser la conception. Elle sert à guérir les aphtes et affections buccales, ce qui explique sa présence dans la fabrication de bains de bouche antiseptiques et son action sur la plaque dentaire. Au Moyen-Âge, ses pouvoirs de guérison s'étendent à la peste, à la préservation de la jeunesse. Au XVIe siècle, le médecin Théophrastus Bombastus von Hohenheim élabore la théorie des signatures, selon laquelle les semblables soignent les semblables. Le latex jaune, de la chélidoine évoquant la bile, est prescrit contre les jaunisses et autres maladies du foie. De tout temps, c'est une plante à manipuler avec précaution, car en tant que papaveracée, ses rhizomes contiennent des alcaloïdes toxiques comme la chélidonine et la berbérine, au pouvoir antiseptique, anti-inflammatoire et antiviraux. On limite aujourd'hui son utilisation en usage externe avec son effet sur les verrues et les corps. Une technique naturelle pour les faire disparaître à raison de plusieurs applications journalières et surtout sans en avaler. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Vous pouvez bien sûr écouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. C'était Claudie sur Radio G 101.5 FM. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, vendredi 11 mars à 13h, à la découverte d'une autre plante herbacée de nos jardins, le plantain.